On l'évoquait la semaine dernière pour ceux qui nous rejoignent, mais on est devant une année qui s'ouvre et le mot d'ordre qu'on aimerait nous encourager, c'est qu'on soit prêt à l'écouter, à le voir dans nos circonstances de vie comme on l'a entendu dans nos témoignages, qu'il soit beau, difficile, inquiétant, anxiogène. Alors c'est vrai, dans la vie d'une église, il y a des projets, je crois que j'avais une diapo, ouais, écoutons-le, c'est le mot d'ordre. On a des projets, on a des chantiers, on a des défis, on a des questions, on a des doutes, vous en avez peut-être dans vos vies, des incertitudes. On a peut-être des fatigues, on a peut-être de l'impatience, de la joie d'avancer dans cette nouvelle année, on a des attentes, mais dans tout cela, on veut écouter notre Dieu. Et on l'avait vu dans ce premier volet, hein, de la semaine dernière. Pour le suivre ensemble, on veut l'écouter, on l'avait vu notamment avec ce verset de Jean 10, verset 27. Mais si on veut le suivre ensemble, si on veut avancer ensemble, nous sommes encouragés à écouter le bon berger, à regarder dans cette même direction. Notre repère, c'est lui. Notre point de référence, notre point de départ, on pourrait dire même, c'est lui. Notre cap à prendre, c'est notre Seigneur. Alors je ne sais pas pour vous, mais suivant les tempéraments, suivant nos histoires personnelles, vos histoires peut-être même avec l'Église, vos expériences du passé, votre manière d'appréhender les choses par rapport à ces pas de plus, par rapport à avancer ensemble, ben on n'a pas toujours le même regard sur la suite. Je m'en suis aperçu dans les différents échanges que j'ai pu avoir ces dernières semaines en vous visitant plusieurs. Certains sont trop impatients que l'année commence. C'est trop encourageant, ça bouge. Il y a des personnes qui nous ont rejoints et on est content de vous avoir parmi nous. Certains vont dire, j'attends, je veux voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est pas ce que j'aurais fait dans la direction à prendre. Peut-être que j'aurais pas dit, écoutons-le pour cette année. Après certains, j'ai aussi entendu certains qui diraient bon, il y a rien de nouveau. L'Église a déjà vécu ces choses dans le passé. Je sais un peu comment cela va finir. On a déjà essayé d'avancer dans ces directions, sur ces sujets. C'est peine perdue. On va baisser les bras. On va pas réussir. Est-ce qu'on va pas aller dans le mur? Est-ce qu'on n'est pas trop limité? Est-ce qu'on voit pas trop haut? Parfois, il y a tellement de choses encore dans notre passé qui sont pas réglées. Comment voulez-vous avancer? C'est pas le moment pour moi, tu sais, la saison de famille, voilà, d'avoir un cap là aussi clair. C'est pas le moment, etc., etc. Alors c'est vrai qu'en tant que personne, voilà, on a différents regards sur nos vies, notre vie d'église et sur la manière dont les choses vont avancer. Mais on l'a rappelé dimanche dernier, on est des brebis de son troupeau. On fait partie de son peuple. On est ses bien-aimés. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est capable, en tant que créé à l'image de Dieu, on est capable de faire pas mal de choses. Dieu nous a donné une sagesse, Dieu nous a donné un certain nombre de dons aussi, et on aura l'occasion de le voir en parcourant 1 Corinthiens. Mais il y a des choses où on est aussi incapable de. Il y a des choses où on est incapable de faire. Il y a des choses qui dépassent notre personne, qui dépassent nos capacités d'homme. On est incapable de connaître cet avenir. Moi, je suis incapable de maîtriser la manière dont l'avenir va se dérouler. Je suis incapable de guérir ce qui vous tracasse dans vos cœurs. Je suis incapable de donner peut-être avec sagesse les démarches à faire dans telle ou telle situation, de connaître, d'agir sur les cœurs, etc., d'anticiper les réactions des uns et des autres. Il y a des choses dont on est totalement incapable. D'où l'importance, pour moi, ce matin, j'aimerais nous encourager, pour avancer, c'est d'être à son écoute, parce que nous connaissons celui qui est capable de nous dévoiler ces choses, celui qui est capable de nous donner des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, des paroles peut-être de connaissance pour encourager un tel et un tel dans sa situation. Peut-être Dieu nous mettra du discernement ensemble dans les chemins, dans les choix que nous serons amenés à faire, dans tous les sujets qui sont devant nous. Parce qu'en fait, on veut l'écouter parce qu'on sait que c'est lui qui peut tout. Et c'est un peu le titre pour ce matin. C'est un peu le volet que j'aimerais nous encourager. On veut l'écouter parce qu'on a un Dieu qui peut tout, mais qui peut tout, absolument tout, qui dépasse nos raisonnements. Celui auquel on s'adresse, rien ne lui est impossible. Sa puissance est si grande qu'il peut tout faire. Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on l'écoute de cette façon-là ? Il peut tout faire. Et j'aimerais prendre pour cela un texte dans l'Ancien Testament. Alors je suis en train, dans ma lecture quotidienne suivie, d'être dans le livre d'Ézéchiel. Alors je suis assez au début encore, mais je redécouvre ce prophète qui parle au nom de Dieu, où Dieu lui dévoile un certain nombre de choses d'ailleurs, de sa personne, de ce qu'il va faire. Et je lisais en parallèle un autre livre sur... Alors vous allez me dire, est-ce que c'est d'actualité pour nous ? J'en sais rien. Mais sur le sujet de la revitalisation de l'Église, ça veut dire, et voilà, c'est de se dire d'encourager une Église qui peut-être est parfois essoufflée, égarée, qui ne sait pas trop où aller, qui est peut-être parfois même mourante, hein, parce que revitalisation, hein, vous entendez redonner vie. Et il y avait ce chapitre que j'aimerais voir avec vous, qui m'a interpellé, qui m'a encouragé pour nous aussi cette année. Dans cette dimension de l'écouter et de l'écouter celui qui peut tout. Alors Ézéchiel, c'est un prophète que Dieu a choisi, que Dieu est venu chercher pour transmettre des messages à son peuple. Un peuple qui est en exil. Simplement des éléments de contexte parce que ça nous permettra de bien comprendre ce texte. Et il y a souvent un refrain, la parole de Dieu m'a été adressée. Et dans ce livre, on voit que Dieu dévoile à son prophète, à cet homme de Dieu, des profondes accusations contre son peuple. Des jugements. Il y a des paroles très dures. Parce que ce peuple n'a pas écouté. Parce que ce peuple s'est rebellé. Parce que ce peuple a eu un cœur qui était endurci à la parole de Dieu. Et ce prophète a tout un tas de mauvaises nouvelles parce qu'ils ont refusé d'écouter. Leur cœur était devenu endurci. Il y avait un message de jugement. Mais Ézéchiel aussi, à partir du chapitre 34, a eu un message d'espoir de la part de Dieu. Un espoir pour son peuple d'Israël. Vous avez ça du chapitre 34 au 37. À partir du 34, vous vous rappelez, chapitre 34, il y avait l'idée d'un nouveau berger. On en a parlé aussi récemment, qu'il y avait un berger qui allait arriver. On le sait dans la personne de Jésus-Christ. Chapitre 38, il y a un espoir pour les nations. Et enfin, pour terminer, un espoir pour toute la création. Voilà Ézéchiel, le message. Et dans le passage que je vais prendre, Ézéchiel reçoit un message d'espoir pour son peuple. Et il va montrer qu'il est le seul à faire cela. Chapitre 37. Souvent utilisé, peut-être l'un des plus connus peut-être d'Ézéchiel, je ne sais pas, pour certains d'entre vous. Mais avant de prendre Ézéchiel 37, pour le placer encore plus dans le contexte précis de ce que Ézéchiel est en train de dire au nom de Dieu, dans le chapitre 36, Dieu promet à son peuple qui est rebelle, qui n'écoute pas, qui est blessé, qui est exilé, qu'un jour Dieu viendrait le chercher et viendrait conclure une nouvelle alliance avec lui. Et qu'il viendrait le transformer justement ce cœur endurci et lui donner un cœur nouveau. Et peut-être que là, ça va faire écho. Je vais le lire, hein, chapitre 36, versets 24 et 28. Vous pouvez le suivre si vous avez le chapitre. Donc, chapitre 36 d'Ézéchiel, à partir du verset 24. « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Waouh ! Ça, voilà. Et là, on le voit l'écho. En Jésus-Christ, bien évidemment. Voilà la promesse qu'Ézéchiel est en train de dire à ce peuple. Je ferai de vous un nouveau peuple. Je vous restaurerai, je vous purifierai. Je mettrai en vous un esprit, je ramollirai vos cœurs endurcis. C'est extraordinaire ce que Dieu annonce bien des siècles avant. Et on le voit, les promesses, la présence de l'Esprit de Dieu dans chacun de son peuple. La purification, un cœur renouvelé, un cœur nouveau. Et la question qui pourrait se rester à la fin de ce verset, de chapitre 36, c'est de se dire, mais comment Dieu va accomplir cette promesse? Comment pouvons-nous savoir que Dieu a le pouvoir de faire cela? Et là, il y a le chapitre 37. Et là, on a une image connue, on va le voir, une vallée d'ossements desséchés. Mais c'est le contexte qui met en valeur ce qui s'est en train de se dire dans le chapitre 37. Comment Dieu va accomplir ses promesses? Parce que l'image de cette vallée va nous montrer que Dieu a le pouvoir de faire l'impossible, de faire ressusciter les morts. Et là, je vous rappelle le verset que je vous ai dit en intro de culte dans Jean, de la mort à la vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous le... De la mort à la vie. Donc Ézéchiel 37, j'ai fait déjà un peu le résumé. Dieu insuffle la vie à ce qui est mort et unit ceux qui sont irrévocablement divisés. Dieu est assez puissant pour transformer notre Église et pour conduire dans les projets qui sont devant nous. Alors lisons Ézéchiel 37, les premiers 14 versets. C'est Dieu qui parle, hein. La main de l'Éternel à travers Ézéchiel. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Waouh ! Premier point que ce chapitre 37 souligne, c'est que Dieu insuffle la vie à ce qui est mort. Vous l'avez senti, hein, ce début de chapitre transpire la mort, le désespoir, hein. Une vallée qui semble désertique, impossible pour que la vie puisse de nouveau exister, remplie d'ossements, très nombreux sur ce sol de la vallée, complètement sec, nous dit ce texte. Avec cette question, ces os pourraient-ils revivre? Ossements desséchés. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Ça, c'est là, on est plus bas, on ne peut pas, comme espoir. Dieu a transporté son prophète dans cette vallée et lui demande, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Là, ça nous place avec cette question de se dire, dans des situations désespérées qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient d'ailleurs, suivant les personnes, c'est pas les mêmes, est-ce que cette situation peut changer ? Dieu sait tout, hein. Il ne pose pas cette question parce qu'il ne connaît pas la réponse, mais c'est pour montrer, dans la réponse qu'Ézéchiel va donner, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Seul Dieu le sait. Seul Dieu peut faire revivre ces eaux mortes et desséchées. Dieu est le seul capable, Dieu est le seul qui a le pouvoir d'insuffler la vie là où il n'y en a pas, là où il n'y en a plus. Ça, c'est le Dieu qu'on veut écouter. Dieu, par sa parole, par son esprit, redonne vie. Dieu donne vie au moyen de sa parole. Et Dieu, on le voit, Dieu ordonne à son prophète de parler, de prophétiser en son nom. Verset 5, « Voici ce que dit le Seigneur. À ces eaux, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. » Par sa puissance, Dieu a rappelé à la vie ce qui était mort. On le sait, dans Genèse, Dieu a donné la vie à ce qui n'existait même pas encore. La création, c'est par sa parole qu'il a créé la vie et tout ce qui nous entoure. Rien n'existait, mais par sa puissance de la parole, il a créé. Et par la puissance de sa parole, il redonne vie à ce qui est mort. Dieu affirme qu'il prend ses eaux mortes, secs, qu'il va les couvrir de chair, qu'il va insuffler l'envie en eux afin que tous sachent, vous l'avez entendu, qu'il est l'Éternel, qu'il est Dieu. Dieu insuffle la vie en accomplissant sa parole. Et on le voit dans ce texte, ça s'accomplit. Ce qu'il a dit s'accomplit. Sa puissance n'est pas simplement dans ce qu'il dit, mais parce que ça s'accomplit. Comme il le promet. Je relis le verset 7. J'ai prophétisé, j'ai parlé comme l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, les eaux se sont rapprochées, etc. Il y a eu de la vie là où il ne devrait pas y en avoir. Dieu insuffle la vie en accomplissant ce qu'il dit. Enfin, Dieu insuffle la vie en expliquant aussi sa parole. Il est en train d'expliquer ce qui est en train de se faire. Pourquoi il y a cette image qui est donnée au prophète? Et c'est là où c'est beau. Parce que cette vision, elle est adressée à Israël qui est en exil, qui souffre des conséquences qu'il s'est rebellé contre Dieu. Comment les promesses d'Ézéchiel 36 dont je viens de dire, je vais vous rassembler, je vais vous purifier, je vais vous donner un esprit. Comment ces choses vont s'accomplir ? Et par la puissance de Dieu, par mon action. Versets 11 à 14 de notre chapitre 37, Dieu explique cette vision et répond, ces ossements qui reprennent vie, c'est tout l'espoir de la maison d'Israël qui est aujourd'hui desséchée, qui est dépourvue d'espoir, qui va retrouver vie. Je trouve c'est beau, hein, de verset 12, hein, je vais ouvrir vos tombes, je vais vous en faire sortir. Vous qui êtes mon peuple qui a désobéi, mais vous êtes mon peuple et je vais vous ramener. Et alors vous reconnaîtrez que je suis Dieu parce que j'en suis capable lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir. Le peuple d'Israël était dans un tel état, n'avait plus d'espoir. Je ne sais pas dans quelle situation vous voyez cette année qui s'ouvre. Est-ce que notre regard est fixé sur ce Dieu qui dit, qui peut tout, qui donne vie à ce qui semble désespéré? Dans le livre d'Ézéchiel, le désespoir et la détresse et cette mort qui sent à plein nez au début de ce chapitre nous montre que seul Dieu, par sa puissance, par son pouvoir, peut accomplir ce qui nous est impossible. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et c'est une des occurrences dans l'Ancien Testament qui nous rappelle que Dieu peut redonner vie. Qu'il est puissant pour ressusciter les morts. Il peut insuffler la vie, ce qui nous est impossible de faire chacun d'entre nous, à ce qui est mort. Ce chapitre 37, il est là pour montrer que c'est Dieu qui va agir, que c'est que Dieu qui va faire accomplir sa parole, qui va donner ce cœur nouveau. C'est moi qui vais le faire, par mon esprit. Est-ce que ces mêmes vérités, on veut se les appliquer? Que Dieu peut tout, qu'il peut même redonner vie. Alors en ce début d'année, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute nos voix? Notre sagesse de se dire oh, « moi je pense que les choses vont aller dans cette direction, d'ailleurs positive ou négative, ou est-ce qu'on écoute nos a priori? Est-ce qu'on écoute nos craintes? Qui écoutons-nous ?» Et dans cette interpellation, dans ce mot d'ordre pour cette année, faisons le choix d'écouter celui qui peut tout, mes amis. Faisons le choix d'écouter celui qui peut tout, qui redonne la vie, là où nos yeux ne voyaient plus aucun espoir. Deuxième partie de ce chapitre, Ézéchiel va nous donner une deuxième image. Je propose de continuer la lecture, versets 15 à 38. C'est toujours la parole qui est donnée à Ézéchiel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus, pour Juda et pour les Israélites qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir qu'un seul morceau de bois, afin qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront « Ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent, je les joindrai au bois de Juda et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, devant leurs yeux, et tu leur diras « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai vers leur territoire. » Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles ni par leurs monstruosités et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tout seuls un seul berger. Ça rappelle ce qu'on a entendu la semaine dernière. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront, ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. C'est un texte riche encore. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais simplement le simplifier pour nous. Dieu unit là où il y a la rupture. Vous voyez, dans cette deuxième image, Ézéchiel est amené à prendre deux morceaux de bois, une qui représente, pour assez faire simple, Juda, et une autre pièce pour rappeler Israël. Et il les met ensemble pour n'en faire qu'une. Dieu explique par cette scène, et voilà, il donne les explications, qu'il fera de ces deux royaumes divisés un seul peuple. Petit rappel, hein, depuis Salomon, le peuple d'Israël s'est divisé. Ils ont eu deux royaumes. Il y a eu de la guerre civile. Il y a eu de la désobéissance, de l'obéissance, un retour à Dieu. Voilà, enfin bref, un abandon de Dieu, etc. Il y a eu une succession de rois. Il y a eu des moments terribles. Ces deux royaumes ont été dispersés encore plus loin. Non pas parce que c'était la fatalité, mais parce que Dieu avait dit « Vous m'avez oublié ». Je vais vous disperser, c'est la sanction. Je vais vous exiler loin, dans d'autres territoires. Dieu, en montrant qu'il est capable d'insuffler la vie à ce qui est mort, nous montre dans ce texte qu'il va unir ce qui nous paraît irréconciliable. là où il y a eu la rupture, là où il y a eu la séparation, là où il y a eu la dispersion, là où il y a eu tous les mots que vous pouvez mettre, la discorde, la divergence, la dissension, tout ce qui nous sépare les uns des autres, Dieu monte dans ce texte qui nous rassemble. Dieu unit deux nations déchirées. Après des centaines d'années de conflits, il les rassemble en un seul lieu. Verset 21, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés, je les ramènerai vers leur territoire, je ferai d'eux une seule nation. C'est beau comme promesse à entendre quand on est dispersé. Malgré qu'ils sont dispersés à cause du jugement de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas écouté. Mais dans cette nouvelle alliance, Dieu promet de les réunir, de les unir, qu'il sera leur peuple, qu'il sera son peuple, qu'il sera leur Dieu. Une seule nation, un seul troupeau, comme on l'a entendu dimanche dernier. Vous êtes mes brebis, je suis le bon berger. Dieu les unit encore, bien sûr deux nations déchirées, mais il les unit, vous l'avez peut-être aussi entendu, en les purifiant. Je trouve que c'est extraordinaire, verset 23. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Dieu est en train de montrer que non seulement il va les rassembler, les unir, mais il va les purifier de tout ce qui les sépare. De ce qui les sépare entre eux, mais de ce qui les sépare à Dieu. Je vais vous rendre un cœur pur. Là, ça fait écho hein, à la Nouvelle Alliance, à ce que Christ a fait, qu'on va se rappeler tout à l'heure. Il promet de les sortir de tous les lieux où ils se sont attachés au péché et il va les purifier. Les causes de division parmi nous sont nombreuses. Mais il y a une chose qui devrait nous unir. C'est le pardon de Dieu. C'est sa grâce. C'est son espérance en Jésus-Christ. C'est le pardon. C'est l'œuvre de Christ. C'est la nouvelle naissance. Ce qui était mort est devenu vie. Ce qu'on a lu dans Jean 5. La promesse de purification qui unira un peuple racheté. On voit aussi que Dieu unit par l'intermédiaire d'un roi. Il parle d'un roi, il parle d'un berger. La descendance de David. Verset 22, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Mon serviteur David, c'est le Messie. Ce qui nous unit, c'est Christ. C'est notre berger, notre bon berger. Que fera ce bon berger? Le texte nous dit qu'il va nous conduire dans l'obéissance, qu'il va nous conduire dans le respect de Dieu. On a besoin de Dieu. Un seul roi régnera sur eux. Ils ne formeront plus de nation, mais une seule autour du même Seigneur. C'est le même regard que nous sommes appelés à regarder vers Jésus-Christ. Et enfin, on voit aussi dans ce texte qu'il nous unit par sa présence. Verset 25, ils habiteront le pays que j'ai donné. Il y a une dimension. Voilà, ce peuple, ces brebis que j'emmène dans un pâturage. Un pays promis, une restauration. Bien sûr, c'est la promesse faite à Abraham de donner une descendance nombreuse, de donner un territoire. C'est la grande histoire de la Bible. Mais ici, dans Ézéchiel 37, Dieu rappelle que par sa puissance, par cette nouvelle alliance, il va nous rassembler. Des royaumes brisés, des vies brisées, des vies divisées, il va nous rassembler en un seul peuple. Il va conclure une alliance de paix, une alliance éternelle. Il y a un espoir devant nous. C'est extraordinaire. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il y a cette intimité, cette proximité qui est extraordinaire. Ils sont exilés, ils sont à un endroit qu'ils connaissent pas, parmi des gens qui ne connaissent pas leur langue et qui n'adorent pas leur Dieu. Dieu vient faire cela pour habiter parmi son peuple, afin que les nations voient, c'est la fin, les nations reconnaîtront que je suis Dieu. Dans ce que Dieu est en train de faire dans ce chapitre et de ce qu'il peut tout, c'est pour que le monde voit que je suis Dieu. Pour que le monde voit. Des enfants qui étaient éloignés de Dieu, où la présence de Dieu n'était plus au milieu d'eux, Ézéchiel 11 le dit, ils étaient en exil, leur ville bien-aimée Jérusalem était en ruine. Où est l'avenir devant eux? Et il y a cette promesse du chapitre, où il y a ce renversement total de cette nouvelle alliance, purifiée de leurs péchés, un cœur nouveau pour obéir, un roi qui va régner, une seule nation, une présence de Dieu qui va demeurer éternellement avec son peuple. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que nous sommes incapables de faire. Alors cette parole d'Ézéchiel s'inscrit dans le contexte. Hein. C'est pour le peuple d'Israël qu'il a dit cela. Bien des siècles derrière nous. Il n'est pas en train de s'adresser à Wittenheim ou aux églises du Nouveau Testament. Par contre, les vérités de sa personne, de qui il est, restent vraies. Parce qu'ici, nous voyons comment Dieu va agir avec ce peuple. On peut le transposer comment Dieu va agir dans nos vies. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui reste ce Tout-Puissant, celui qui donne la vie. Dieu travaille toujours à l'accomplissement de ses promesses, de ses engagements, de ses projets. Dieu donne la vie à son peuple. Dieu donne son esprit à son peuple. Dieu nous unit. Dieu nous donne une espérance. Alors qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter? Qu'est-ce qui pourrait tuer l'avenir de notre Église dans nos réflexions? Pour les plus pessimistes que nous pourrions être, on pourrait se dire, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas de vie. Peut-être que c'est le deuxième sujet, c'est la division. Il y a trop de trucs non réglés depuis des années et des siècles. Non, pas des siècles, mais des dizaines d'années entre nous. On aurait tas de trucs qui nous divisent. C'est vrai. L'absence de vie spirituelle, les divisions peuvent causer la mort à petit feu d'une église. On peut signer sa fin. Mais notre espoir, notre regard, il est sur Dieu, sur Christ qui peut tout, qui redonne vie là où il n'y a plus de vie, qui répare ce qui est cassé. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est celui qu'on veut écouter. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager cette année. On veut écouter qui ? On veut l'écouter lui qui peut tout. Alors c'est vrai, pour le suivre ensemble, hein, Dieu insuffle la vie à ce qui est mort et unit ce qui est irrévocablement séparé, désuni. Dieu peut tout. Est-ce qu'on veut l'écouter? Est-ce qu'on est prêt à se laisser interpeller par lui? Alors pour l'écouter, on a toujours besoin, et je pense qu'autour de cette question de l'écoute, on a besoin de mieux le connaître, de mieux connaître ce Dieu qui parle. C'est ce qu'on voudra s'encourager cette année, dans toute la simplicité que nous sommes les uns les autres. Dans son livre, que je vous encourage à lire, hein, « Connaître Dieu » de James Packer, il va donner 4 points qui sont les images aussi de celui qui connaît Dieu. « Ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. » Il y a un zèle. Ouais. Est-ce qu'on est zélé dans cette année à mieux le connaître? On veut l'écouter, oui, mais on est zélé parce que il peut tout. « Ceux qui connaissent Dieu, deuxième point, ont de Dieu une grande opinion. » Une très grande opinion. Oui, notre monde nous offre des images terribles, mais je connais celui qui peut. Ceux qui connaissent Dieu témoignent pour sa cause d'une profonde hardiesse. Ça, c'est le troisième. Est-ce que notre Dieu, son esprit qui habite en nous, nous équipe avec autant de zèle de dire oui, on veut proclamer, on veut parler de ce Dieu, on veut écouter ce Dieu qui est tout-puissant. Ceux qui connaissent Dieu, quatrième point, trouvent en lui une pleine satisfaction. Une pleine satisfaction. Voilà le Dieu que j'aimerais nous voir encourager à connaître mieux dans ces prochains mois ensemble. Dans les 2 dimanches à venir, on aura l'occasion de continuer cette réflexion autour de l'écouter. Notamment, on va voir la place de la parole, la place de l'esprit dans tout cela. Bien sûr, aussi la place de la prière. Voilà, dans les 2 prochains dimanches, on aura l'occasion de continuer cette dimension de vouloir écouter notre Dieu qui peut tout et qui veut nous conduire ensemble dans une même direction.